Je souhaiterais avant tout partager avec vous une citation de Gandhi qui traduit bien ce que m'inspire le pardon. Une âme qui s'élève, c'est le monde qui s'élève. Cette version audio de mon livre « Guérir son cœur par les cercles de pardon » je la dédie à mon fils Yann pour sa grandeur d'âme et son intelligence émotionnelle. Introduction. Olivier Clerc, tu connais? Non. Le don du pardon, ça ne te dit rien? Écoute, non. Alors ça, tu vas pas pouvoir y échapper car avec une Vénus pareille dans ton ciel de naissance, comment aurais-je pu savoir que derrière ces quelques phrases prononcées par Nicole, astrologue humaniste, se cachait une formidable rencontre qui allait donner à ma vie professionnelle un nouveau tournant et surtout m'offrir une clé inestimable dans ma vie personnelle. Il est vrai que plusieurs mois après, ces mots continuent à résonner dans ma tête et je décide donc de faire une recherche sur Internet au sujet d'Olivier Clerc. J'arrive sur son site où une phrase attire de suite mon attention. Guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Waouh ! Cet homme avait-il découvert le Graal ? Graal d'ailleurs qu'il se proposait de partager au travers son rituel, le don du pardon. En tant que traducteur du célèbre best-seller « Les quatre accords Toltec », c'est tout naturellement qu'il s'était rendu au Mexique en 1999 afin de rencontrer l'auteur Don Miguel Ruiz. Et c'est à la suite de cette rencontre qu'il avait développé son rituel. Il est vrai qu'il suffit de prononcer le mot « pardon » pour qu'inconsciemment un flot de pensées vienne s'ériger comme une barricade y faisant obstacle. Alors, il ne m'en fallut pas plus pour aiguiser ma curiosité. Je décidai de m'inscrire à son atelier, le don du pardon, qui avait lieu au domaine Saint-Laurent à Cluny le 6 octobre 2012. J'arrive au domaine Saint-Laurent accompagnée de deux amis et de ma mère, qui m'avait semblé intéressant de convier à partager cette expérience de pardon. Les premières personnes avec lesquelles nous entretenons silencieusement des griefs ne sont-elles pas nos parents ? En tout cas, je pensais que cette étape ne pouvait que nous être bénéfique à l'une et à l'autre. Annabelle, l'épouse d'Olivier, nous accueille avec son grand sourire, sa chaleur, pendant que Olivier, lui, continue à s'affairer aux derniers préparatifs. Et les participants arrivent peu à peu. Nous en profitons pour prendre possession de nos chambres et boire une boisson chaude. Et une demi-heure plus tard, environ une vingtaine de personnes se retrouvent assises en cercle, prêtes à recevoir cet enseignement. Alors nous nous présentons simplement en déclinant notre identité, notre lieu de résidence. Et là je suis soulagée parce que je me dis inutile de déballer ma vie et le pourquoi de ma présence. Je précise que même d'ailleurs si j'ai fait l'acquisition du livre d'Olivier, je me suis bien gardée de le lire afin d'être présente aujourd'hui sans attente et sans a priori. Juste là, ici et maintenant, ouverte, à la découverte. Nous sommes toutes et tous d'âge différent. Certaines personnes sont venues avec un ou une amie, d'autres avec leur conjoint ou conjointe. Mais c'est la première fois qu'Olivier reçoit une mère et sa fille. Alors il nous relate son parcours et la magnifique expérience du pardon qu'il a faite en 1999. Et qui l'a amené à être là parmi nous aujourd'hui. lors d'une semaine d'enseignement à Teotihuacan, au Mexique, avec Don Miguel Ruiz, Olivier a vécu une expérience de pardon qu'il qualifie de bouleversante et qui a changé radicalement sa vie. 10 ans après, il relate cet épisode dans un livre, aujourd'hui traduit en 5 langues, sur la base duquel il a créé un rituel de pardon à vivre en groupe, rituel appelé le don du pardon. Alors je ne m'attacherai pas ici à vous restituer son expérience, hein, que vous pouvez découvrir dans son livre « Le don du pardon » aux éditions Guy Trédaniel, rédigé d'ailleurs avec une grande humilité et beaucoup d'humour. Et ce sont ces 2 traits de caractère qui ponctuent chaque moment de ces 2 jours passés en sa compagnie à Cluny. Dans un premier temps, Olivier s'attache à nous dévoiler dans un langage simple les notions inhérentes au pardon et ses facettes cachées. Et c'est lors de cet atelier que j'ai réalisé que j'étais devenue inconsciemment prisonnière de pensées qui alimentaient des ressentiments, voire quelques rancunes tenaces, et que j'avais également laissé se cristalliser en moi une succession de petites colères tout aussi préjudiciables les unes que les autres. Sans même en avoir réellement pris conscience, la vie coulait en moi au compte-gouttes. Alors m'est venue à ma conscience l'image d'une infirmière. Et je me suis dit, mais faut-il que j'attende la venue de cette infirmière pour qu'elle en augmente le débit, et restant ainsi dépendante d'une aide extérieure? Le rituel du pardon, inspiré des enseignements de Don Miguel Ruiz, allait m'offrir cette occasion. Chaque fois que mon regard plongeait dans celui d'un autre participant, tout en lui murmurant « Je te demande pardon », une énergie purificatrice, libératrice s'emparait de nous à notre insu. Pas besoin de comprendre, pas plus que de faire intervenir sa volonté, juste être là, se laisser porter par cette énergie bienfaitrice, bienfaisante, accueillir la magie et la transformation qui s'opère. En 2 mots, ouvrir les vannes et permettre à l'amour de circuler à nouveau librement. Je venais de recevoir un cadeau inestimable et profondément touchant, dont j'allais personnellement faire bon usage. Je ne devais pas le garder pour moi comme un trésor caché. Je ressentais également l'envie de le partager avec d'autres. Et cette occasion se présenta à moi le 8 décembre 2012. En effet, l'objectif d'Olivier étant de permettre à un plus grand nombre de gens de vivre ce rituel de pardon de façon simplifié en 2 à 3 heures seulement, il proposa une première journée de formation à l'animation de cercles de pardon aux personnes ayant déjà participé à son atelier, le don du pardon. Alors je suivis cette formation en même temps qu'une 30aine d'autres personnes et mon premier cercle de pardon vit le jour à Verdun-sur-le-Doubs, en Saône-et-Loire, le 23 février 2013. Depuis, chaque mois, j'initie un cercle de pardon et c'est cette expérience fabuleuse que je me propose de vous partager dans ce livre. La première partie vous permettra d'accéder à une nouvelle compréhension par le cœur du pardon. Et pour une fois, vous allez laisser votre mental prendre des vacances bien méritées. La seconde vous laissera découvrir le rituel proprement dit et la façon dont certains participants l'ont vécu à travers leurs témoignages. Première partie, mes premiers pas vers le pardon. Créer son propre enfermement. premier regard, la vie peut bien souvent paraître injuste. Elle nous fait vivre des situations pour lesquelles notre mental se dit qu'il n'y a pas de pardon possible. Et le cœur est si meurtri qu'il n'obéit plus qu'à sa souffrance. Souffrance d'ailleurs qu'il ne cesse de ressasser, de justifier et d'entretenir jour après jour. Et parfois il s'identifie tellement à elle qu'il ne peut trouver la guérison. Et c'est ainsi qu'année après année nous construisons notre propre prison. C'est comme si nous érigions des murs dont les moellons seraient nos ressentiments, nos colères, nos rancunes, empilés les uns sur les autres et dont la peur serait le ciment. Et nous avons tellement peur de souffrir à nouveau que nous croyons que ces murs constituent le rempart à toute nouvelle attaque. Je me souviens d'une chanson sur le pardon, j'en ai oublié le titre, mais dont les paroles expliquaient que nous gardons nos blessures dans le placard et que nous les ressortons régulièrement pour les regarder, les raviver et nous attardant sur les torts que nous avons subis et nous apitoyant sur notre sort. La fin de la chanson parlait de nos illusions. Nous croyons enfermer celui qui nous a blessés dans la prison de notre ressentiment, mais si nous regardons le visage de celui qui est derrière les barreaux, c'est le nôtre que nous voyons. Paralysés par des tonnes de petites rancunes accumulées ou par un brutal événement, nous devenons prisonniers, émotionnellement prisonniers. Et c'est seul, souffrant, emmuré, privé de lumière que nous tentons de survivre tout en entretenant notre propre misère. Mais à ce moment-là, nous sommes tellement sûrs de détenir la vérité, d'être dans notre bon droit, que nous devenons la victime de notre propre méprise. Car c'est bien de méprise qu'il s'agit. En refusant de renoncer aux sentiments de colère, d'animosité, voire de haine que l'on éprouve pour l'autre, nous restons sous son influence. Que la cause de notre souffrance soit réelle ou imaginaire, le résultat est le même, car une fois installés en nous, ces sentiments vont d'abord lentement nous enlacer, pour finir par nous étouffer, nous corroder. On a tous déjà vu un arbre se faire enlacer par du lierre, au point qu'on ne puisse plus distinguer son écorce. Vous savez que le lierre est surnommé le bourreau des arbres. Il rampe, puis grimpe, il s'agrippe à son support par le moyen de crampons qui se forment sur les rameaux et constituent ainsi une sorte de ventouse. Et elle se fixe sur toutes les surfaces disponibles. Eh bien, il en est de même avec le ressentiment, qui ne laisse plus aucune partie vierge à notre propre cœur. Il est sous son entière emprise. Avez-vous déjà remarqué que lorsque l'amertume nous ronge, nous avons tendance à garder précieusement en mémoire, comme un trophée, le moindre détail de notre offense, aussi infime soit-il. Et nous continuons à alimenter notre souffrance, ne ratant aucune opportunité de remettre ça sur le tapis. Continuons ainsi à justifier notre douleur et à montrer aux autres « Oh, combien nous avons été blessés !» Mais les autres, malgré leur grande compassion à notre égard, ne pourront jamais prendre la mesure de notre blessure. Et cette attitude que nous entretenons envers nous-mêmes est destructrice. Et nous la nourrissons de pensées malveillantes, haineuses. Notre cœur se durcit. Il est parfois tellement rempli de rancœur, avec un trop-plein d'émotions refoulées, prêtes à éclater à la moindre occasion, qu'il reste habité pendant des années d'une soif de vengeance, connaissez le fameux retour à l'envoyeur. Il est naturel de vouloir retourner à la source notre souffrance et de nourrir une certaine envie de vengeance. Je veux qu'il souffre autant que je souffre. Mais cette position nous éloigne de la vérité et de l'occasion un jour de retrouver une véritable et sincère paix du cœur. Notre cœur a besoin de vivre en paix et de retrouver sa capacité à aimer. À l'adolescence, j'ai été victime d'une agression sexuelle. J'ai lutté pour cacher cette situation à ma famille afin de les épargner, puis je me suis murée dans le silence, essayant tant bien que mal de continuer à vivre ma vie de jeune fille. Mon corps me faisait souffrir à travers différentes somatisations et n'a pas trouvé mieux que de se constituer une belle protection, petite quinzaine de kilos superflus, afin d'en rajouter à ma honte, car c'est le lot de beaucoup de victimes. Elles se sentent coupables de ce qui leur arrive et elles en ont honte. Alors autant dire que des justifications pour rester dans ma souffrance, j'en avais à l'appel. Et je restais en quelque sorte victime. Les enseignements de Lise Bourbeau m'ont permis, quelques années plus tard, de comprendre la notion de responsabilité. Lise Bourbeau dit ceci. Nous sommes tous responsables à 100% de notre façon de réagir à toute situation qui se présente au cours de notre vie. Une personne responsable sait que chaque événement, agréable ou non, est là pour l'instruire et aider son âme à évoluer. Alors je compris que je devais accepter que j'étais la seule responsable de tout ce que je vivais et que les événements que je créais dans ma vie m'offraient l'occasion de mieux me connaître, en prenant conscience de mes blessures intérieures et de ce qu'il me fallait résoudre afin d'évoluer sur mon chemin spirituel. J'étais responsable, et non pas coupable. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de nier notre souffrance. Celle-ci risquerait alors de ressurgir en d'autres temps et de façon exponentielle afin d'être libérée. Mais il s'agit de reconnaître nos blessures, tout en refusant d'alimenter notre penchant naturel à rester victime, donc en devenant conscient de notre part de responsabilité. J'avais fait un pas de géant dans ma guérison intérieure. Mais quelque chose me manquait pour aller au bout du processus. J'avais encore du mal à faire la paix avec l'homme, avec un grand H, auquel j'avais encore de grandes difficultés à accorder ma confiance. Il restait à mes yeux un être sur qui je ne pouvais pas compter, à moins de rester vigilante et sur mes gardes et prête, bien évidemment, à sortir mes griffes à la plus petite occasion. J'avais compris, mais pas pardonné. C'était trop facile et quand bien même pensais-je y être arrivée, je m'apercevais par la suite qu'il n'en était rien. Je me disais que seuls les fervents pratiquants, fréquentant les églises ou autres lieux de culte, pouvaient pardonner. On leur a appris. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'avais beau vouloir pardonner, je n'y arrivais pas. Le cœur n'obéit pas à notre volonté. C'était trop facile. Ces échecs répétés en dépit de ma bonne volonté ne faisaient qu'alimenter ma culpabilité de ne pas réussir à me libérer de ce fardeau qui pesait encore sur mes épaules. Même si sa charge s'était considérablement diminuée et mon conjoint n'était pas complètement étranger à cet allègement tant attendu. Peut-être que le pardon a ses limites lui aussi. Trouver un sens à sa souffrance. Même si le pardon ne m'a pas encore dévoilé tous ses mystères, je sais qu'il permet d'aller de l'avant dans la vie et de cesser de vivre rattaché au passé. Nul ne peut changer le passé, mais chacun peut choisir de pardonner et ainsi de retrouver sa liberté pour aller de l'avant. Le pardon implique en premier lieu de faire le choix délibéré de cesser d'entretenir sa colère ou de haïr, car c'est le seul et unique moyen de guérir son cœur. Et c'est pour cette raison que je suis assise là sur mon siège, tous mes sens en éveil, afin de ne pas perdre une miette de ce que Olivier nous enseigne. Il aborde en premier lieu la notion de logothérapie. La logothérapie, troisième école de psychanalyse de Vienne, est une psychothérapie qui se focalise sur le besoin du sens et repose sur le postulat que tout être humain est doté d'une motivation primaire qui l'oriente vers le sens de sa vie. Et d'ailleurs, la perte de sens peut le conduire à une névrose. C'est dans son expérience des camps de concentration que Viktor Frankl a développé cette interrogation sur le sens. Il défend la thèse selon laquelle l'inconscient est principalement d'essence spirituelle, car lorsqu'on trouve un sens aux événements de sa vie, la souffrance diminue et la santé mentale s'améliore. Tout être humain peut utiliser son libre arbitre et choisir sa position et son attitude face aux conditions intérieures et extérieures de son existence. Nous avons donc le choix de nous ouvrir ou non au pardon et à la guérison de notre cœur. Dans cette démarche de quête de sens, il faut considérer trois plans distincts. Premier plan, quoi ? C'est-à-dire la réalité des faits. Deuxième plan, comment ? Comment je vis cette réalité ? Dernier plan, pour quoi ? C'est-à-dire dans quel but je vis cette réalité ? Quel sens je donne à ce que je vis? Et non pas « pourquoi » en un seul mot qui revient trop souvent à dire « mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Envisager la question sous cet angle nous conduit à rester dans le rôle de la victime. Car seul notre mental peut répondre à cette question. Alors qu'il serait préférable de laisser notre cœur parler. Sortir du rôle de victime est essentiel et salutaire car il nous condamne à rester impuissants et nous prive de notre plein pouvoir. Je peux reconnaître la partie souffrante en moi, mais en aucun cas la laisser gouverner ma vie et prendre toute la place. Se confiner dans ce rôle ne présage rien de bon et risque en peu de temps de me plonger dans le syndrome de la victime chronique et de devenir ainsi mon propre ennemi. En effet, je deviens le souffre-douleur de ma propre vie. C'est pas très alléchant comme perspective. Alors moi, je décide à ce moment-là d'enfiler la casquette de scénariste afin d'écrire mon rôle, et le seul et unique qui mérite d'être joué, maître de ma vie. Dans cette quête de sens, mon parcours m'a amené à découvrir au travers de ma formation en astrologie humaniste et lors de ma participation à des ateliers en psychogénéalogie où l'on utilisait le génogramme, c'est-à-dire l'arbre généalogique, que j'étais porteuse de cette blessure d'abus. Le génogramme met en lumière les liens qui vous unissent aux membres de votre famille et ce, sur plusieurs générations. Il apporte donc une vision globale du groupe familial. Et ce groupe forme un tout indissociable, où chaque élément fait lui-même partie de ce tout et le contient en lui-même. Alors aussi curieux que cela puisse paraître, cette compréhension m'a apporté une forme de soulagement. En quelque sorte, j'étais l'infortunée héritière d'une mémoire familiale qui ne demandait qu'à être libérée. Et tout cela prenait sens. D'ailleurs, cette vision a un lien avec l'approche transpersonnelle véhiculée par les rituels des cercles de pardon. En effet, la notion transpersonnelle repose sur l'unité de toute chose, sur la prise de conscience que, dans l'univers, tout est relié. Toute vie, toute forme et toute substance émanant de la source originelle sont sacrées et font partie du tout. L'individu dépasse la notion de personne pour réaliser qu'il est autre chose que la conscience de son corps et de son histoire personnelle. Et cette approche donne également accès à l'inconscient collectif. Le bénéfice du cercle de pardon va bien au-delà de la personne humaine, de son individualité. Il concerne également les autres présents ou non. La dimension transpersonnelle de ce rituel permet de recevoir et d'exprimer le pardon de personnes non présentes, y compris de celles qui jamais ne nous demanderont ce pardon tant attendu. Alors des pardons s'échangent entre les participants et des personnes absentes, voire décédées. Leur présence n'est pas nécessaire pour que la magie du pardon opère. Et c'est une chance car imaginez que la personne à laquelle vous souhaitez adresser une demande de pardon soit décédée ou qu'elle refuse cet acte, car peu consciente du mal dont elle est à l'origine. Alors rien ne serait possible. Lors d'un cercle de pardon, une jeune femme s'adressant à une dame plus âgée laisse couler ses larmes et dit « On dirait ma grand-mère ». À la fin du cercle, elle partage que cette dernière ne ressemblait nullement à sa grand-mère, mais qu'en lui faisant face, elle avait ressenti la présence de sa mamie. Olivier Clerc raconte une histoire similaire. Une jeune fille s'adresse à une dame d'une soixantaine d'années et lui dit « Je te demande pardon » et ajoute « Petite mère » sans même savoir pourquoi. La dame en est bouleversée et fond en larmes, sentant que quelque chose est en train de lâcher, de s'ouvrir, de se guérir. Elle découvrira par la suite que la jeune fille a l'âge qu'aurait eu l'enfant dont elle a avorté 27 ans plus tôt et dont elle portait toujours le poids de la culpabilité. Je me souviens lors d'un autre rituel, une femme se sent irrésistiblement attirée par le ventre arrondi d'une jeune femme enceinte et demande la permission d'y poser sa main. Sa main vient sans hésitation et sans erreur se loger à l'endroit même où est positionné l'enfant. Et elles sont comme aimantées. Les yeux fermés, elles se balancent doucement dans un mouvement de va-et-vient, d'avant en arrière, et leurs corps sont comme reliés. La jeune femme demande pardon à cet enfant qu'elle n'avait pas pu accueillir et dont elle avait également avorté. La future maman avoua qu'aussitôt que cette jeune femme apposa sa main, son enfant s'était totalement apaisé, tout en se faisant plus présent et qu'elle pouvait ressentir son profond bien-être. Des choses étonnantes naissent lors de ces cercles de pardon. Et la magie transpersonnelle du groupe